Du coup, on va reprendre. Je dis d'une voix un peu forte et autoritaire, histoire que toutes les oreilles soient tendues. Du coup, on avait questionné les représentations diverses et variées d'Étienne Davodeau lui-même dans sa bande dessinée. Les beaux portraits qu'il peut faire de lui que des portraits un peu moins glorieux parfois. Enfin bon, toujours à ton, ou pas à ton avantage, mais toujours dans une recherche de véracité, entre guillemets. Maintenant, on va peut-être aborder un angle plus différent de l'œuvre, de ton œuvre, à savoir celle du militantisme et de l'engagement politique, qui sort souvent de tes bandes dessinées, dans la mesure où beaucoup de tes bandes dessinées, je vais m'asseoir quand même, ce sera un peu plus confortable, beaucoup de tes bandes dessinées te montrent clairement ancrées à gauche, hein, on peut le dire, hein, de même, on l'a vu, et même plus qu'une question de parti ou de mouvance politique, il y a une fascination pour certaines choses politiques, notamment l'écologie, on peut dire, il y a une certaine pratique de l'écologie ou du bio, je ne sais pas, hein, mais on va en discuter tout ça. Et tout d'abord, moi, ce qui nous a frappé avec Bénédicte, c'est la dimension humaine et profondément humaine de ta bande dessinée, n'est-ce pas ? Je te laisse continuer.
Oui, on avait l'impression qu'il y avait un point commun, que ce soit dans la BD de reportage ou dans tes histoires plus fictives, que ce soit Géronimo ou... Enfin, tu n'es pas seule, tu es avec Joub, ou Lulu Femme Nue. Le point commun, enfin, pour nous, ça semblait être une rencontre où tu dessinais beaucoup des personnages qui se rencontrent. Alors, toi qui rencontres des vignerons et vous apprenez les uns des autres le métier de l'autre. Dans Rural, bah, c'est aussi la rencontre avec cet archéologue où tu l'as dit tout à l'heure, que tu avais... aucune idée finalement de ce qu'il était en train de faire, ce regard un peu naïf.
Dans Lulu Femme Nue, la rencontre entre l'héroïne qui est aux abois financièrement et du point de vue de la nourriture et qui décide de braquer une petite vieille, il n'y a pas d'autre mot, elle essaye de la pousser et de lui mettre un chassé. Et en fait, la vieille tombe et commence à gueuler mon sac. Et du coup, Lulu, en fait, c'est une rencontre qui va se faire, une belle rencontre finalement, puisque c'est les deux personnages quasiment principaux. Du récit, et en fait c'est une rencontre qui se fait à la base par la violence, mais qui engendre quand même une rencontre. En fait, il y a toujours une rencontre, pour continuer.
Et en fait, on avait un petit peu l'impression que c'était ça ton sujet, presque le fil conducteur de ta bande dessinée. Est-ce que c'est une lecture de notre part, une interprétation qui te paraît complètement loin? En tout cas, on avait l'impression à te lire que si toi-même tu n'avais pas fait des rencontres, il n'y aurait pas ces bandes dessinées, et que c'était ça le cœur de ta bande dessinée. L'aspect humain,
oui. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement l'aspect humain, moi. Ce que je sais, c'est que dans une perspective, disons, assez large historiquement, la bande dessinée, telle que je la lisais quand j'étais enfant ou ado, elle mettait en scène principalement des héros. Donc des gens, en général, pétris de qualité, avec très peu de défauts, qui affrontaient des adversaires, qui étaient exactement dans la situation inverse. Donc des grands blonds musclés qui affrontaient des petits brins fourbes, en gros, c'était ça. Donc de Tintin à Astérix, en passant par l'Argo Winch ou je sais pas quoi, c'est toujours un peu la même configuration. Et le héros, à la fin, il gagne, il embrasse la jolie fille, et il gagne la grosse voiture. Donc il y avait des espèces de clichés redondants qui faisaient que la bande dessinée ne proposait qu'un type de personnages qui du coup n'étaient pas très humains, justement, parce que si on fait preuve d'un peu d'observation et un peu d'honnêteté, on se rend compte qu'autour de nous il y a assez peu de héros. On croise moins souvent Jean Moulin que Dupont-la-Joie, et ça m'intéressait bien, c'est-à-dire que les gens qu'on croise dans la rue, ils peuvent être parfois faire valoir leurs qualités, parfois c'est les défauts qui prennent le dessus, et moi j'aime bien ce côté un peu changeant et faillible des êtres humains, et j'aimais bien l'idée, évidemment je suis pas tout seul à faire ça, hein, c'est presque un poncif maintenant de le dire, de mettre en scène des non pas des héros, mais des personnages qui soient assez proches des gens qu'on croise dans la vie de tous les jours. Donc ils n'ont pas des métiers spectaculaires, ils sont confrontés au fait de gagner leur vie, de vieillir, d'avoir une vie qui leur convient pas exactement, et toutes ces choses auxquelles on est tous confrontés. Et du coup, dans mon projet, c'était de créer des personnages qui soient plausibles, qu'on pourrait rencontrer dans la rue, quoi, en gros. Chose que la bande dessinée proposait assez peu, je crois, parce qu'elle était toujours sous ce mythe du héros, du anti-héros, ou de toutes ces choses-là. Donc c'est à partir de là que moi j'ai commencé à bosser là-dessus. Et évidemment, les personnages un peu faillibles, imparfaits, complexes que j'essaie de mettre en scène, bah, l'idéal c'est quand ils se rencontrent, évidemment. Parce qu'un personnage seul sert à rien. Donc c'est vrai que j'aime bien raconter des histoires de groupe, des histoires de famille. Je me dis que la famille c'est un terrain d'aventure comme un autre, au moins on le connaît tous. Et que c'est pas forcément l'aventure avec un grand A, mais c'est l'aventure au quotidien, et que le boulot c'est ça aussi, le fait de vieillir c'est ça aussi, le fait d'avoir des copains, de plus les avoir, d'être envie de s'engueuler, enfin tout ce qui fait le sel de la vie quotidienne, c'est un peu le matériau qui m'intéresse d'exploiter, d'utiliser dans mes livres, quoi. Voilà. D'où la direction que j'ai pris dans mes scénarios, quoi. Voilà.
Et du coup, c'est un peu comme dans l'une des BD de Chris, qui est Les Ensembles Contraires, j'aime beaucoup. Mais il y a un côté, en fait, finalement, c'est un peu la revanche des seconds rôles, tes BD. Par exemple, c'est le Capitaine Haddock plus que Tintin.
Bah, c'est exactement ça. Le Capitaine Haddock, je le trouve formidable. C'est un personnage très, 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 très riche, parce que voilà, c'est un alcoolo au grand cœur, un peu plus droit. Tintin, c'est un mec pénible. Enfin, imagine Tintin dans la vraie vie. C'est un type qui vit dans un château, qui bosse jamais, qui doit être d'un lourd, un espèce de boy scout, un vrai sympa, qui n'a pas un peu d'humour, qui n'a pas de sexualité, qui est à peine réel, quoi. Même si le Capitaine Haddock est juste le pendant inverse de ça, il a cette espèce de modernité. Probablement à l'insu d'Hergé à l'époque, d'ailleurs. Son alcoolisme n'est pas franchement affirmé parce que ça ne se faisait pas dans les illustrés pour enfants, parce qu'à l'époque c'était pour enfants. Enfin, il y a un contexte historique duquel le personnage a dû se dégager progressivement. Le personnage chiant dans Tintin, c'est Tintin. Le personnage chiant dans Astérix, c'est Astérix. C'est juste, ce personnage principal, c'est juste un petit véhicule vide dans lequel le lecteur va s'installer pour parcourir tout ça aux côtés des faire-valoir qui sont bien plus intéressants. Donc voilà, éviter les véhicules vides, c'est un truc qui m'intéressait bien. Je dois faire un aparté parce que notre ami libraire qui a dû partir tout à l'heure m'a dit t'es vache d'avoir dit que quand on rentrait dans une librairie de bande dessinée on avait envie de se suicider. Donc je précise ce que je voulais dire, je ne retire absolument rien du côté déprimant que j'éprouve à chaque visite, c'est qu'il y a énormément de livres dans les librairies maintenant, et d'autant plus qu'il y a une production énorme, une surproduction même un peu pathologique en ce moment. Il y a beaucoup de livres qui se contentent d'exploiter la bande dessinée telle qu'elle existe, sans rien proposer de plus. Et il y en a très peu, finalement, qui donnent quelque chose en plus, qui nous donnent envie de... Enfin, dont on a le sentiment qu'ils ouvrent une porte qui n'était pas ouverte encore et qui donnent à voir un territoire qu'on va peut-être pouvoir explorer. C'est dans ce sens-là que je le disais. Donc je maintiens ce que je disais, mais évidemment, ce n'est pas la faute des libraires qui sont là pour nous proposer ce que les éditeurs nous fournissent. Est-ce qu'il y a un éditeur dans la salle? Non. Par contre, je maintiens.
Du coup, quand on s'éloigne un peu de notre sujet, en parlant à chaque fois de l'humain, on dit que là, on reparle d'humain. Là, il y a cette très belle, cette page où en fait tu lis. Je crois que c'est les archives de la JOC. Je crois que c'est ça, hein, le journal.
C'est un journal de
journal des copains.
Ouais, c'est ça. Alors pour ce journal que je retrouve, dont je retrouve des épreuves toutes rouillées et abîmées. C'est un journal que tenaient les jeunes gens d'une vingtaine d'années dans le village de mes parents pour faire le lien entre ceux qui étaient partis en Algérie pendant la guerre, donc qui étaient appelés là-bas, et ceux qui étaient en France, qui étaient sur le point de partir ou qui étaient revenus. Enfin bref, ça s'appelait La Voix des copains, et c'était donc un journal qui tenait au courant de chaque côté de la Méditerranée des événements de tous les jours. Machin s'est cassé la figure en vélo, nous on a sauté en parachute dans un bled algérien. Donc c'était ça, ce journal. Donc je te laisse.
Et non, au contraire. Et justement, tu dis, je découvre au fil de ces lignes tout un écheveau de destin. Et du coup, il y a vraiment cet aspect de découverte, finalement, et là on retrouve aussi le thème de la mémoire qu'on abordait avant. C'est que mine de rien, ta BD met aussi en lumière des destins ou au moins des écheveaux de vie, des esquisses peut-être simplement, ouais. des aperçus qui ont eu lieu, et donc du coup que tu, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais tu te fais aussi en quelque sorte le témoin et l'illustrateur de ces vies dont on découvre. Là, c'est quelqu'un quand même qui a écrit ces mots.
Oui, bien sûr, c'est quelqu'un, et pour moi c'était d'autant plus troublant que je découvre ça, j'ai 40 et quelques années, donc je suis adulte. Ce sont des pages qui datent des années 60, donc de la guerre d'Algérie, qui racontent l'histoire de jeunes gens qui ont 20 ans, qui sont donc soit en Algérie, soit restés dans le village de l'ouest de la France où mon père a grandi. Et les jeunes gens en question, dont j'entends parler, qui sautent en hélico, qui parlent de coups de feu on sent bien qu'ils y vivent des choses extrêmement compliquées en Algérie. Ces gens-là, ce sont les parents de mes copains d'enfance, ce sont les pères de mes copains d'enfance, dont je ne soupçonnais pas qu'ils aient connu tout ça. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui ressurgissent 30 ans après, et j'aurais presque pu faire un autre livre rien que sur ça, quoi. Je ne m'en interdis pas, d'ailleurs.
Et du coup, par rapport à ça, tu dis que tu t'intéresses au personnage secondaire, plus qu'au héros. D'ailleurs, tu as toujours dit bien personnage. Jusque-là, tu n'employais pas le terme de héros. Mais dans ces personnages, il y a quand même... alors peut-être que c'est parce que toutes les BD ne sont pas arrivées encore, mais il y a quand même une récurrence de certains milieux. C'est plus le milieu ouvrier, paysan, etc. Enfin, je dirais les gens ordinaires, pas ceux qui ont une place dans l'histoire ou pas ceux qui ont une place dans l'économie. Est-ce que c'est un choix, tu disais, là où je suis, est-ce que c'est juste une rencontre avec des personnes ou est-ce que c'est vraiment un engagement de ta part d'être plus sur ce type de personnage dès le départ?
Non, c'est pas un engagement au sens où j'aurais promis ça à je ne sais qui de ne me consacrer qu'à ce type de personnage. Ce que je disais au tout début est toujours d'actualité, c'est-à-dire que j'ai le sentiment, à tort ou à raison, d'être plus légitime à raconter des histoires issues d'un milieu que je connais bien, qui est le mien. Donc moi, voilà, je suis né en Europe occidentale dans les années 60 et j'ai grandi dans un milieu modeste, ouvrier, syndicaliste, chrétien. Et puis maintenant, je ne suis plus dans ce milieu-là, mais je reste à vivre dans un milieu rural de pas très loin. Donc mes personnages, les lieux que je dessine viennent de là. Ils viennent de là parce que je suis là, tout simplement. Encore une fois, c'est pas un esprit régionaliste ou cocardier. Je me fous absolument d'être là. Je suis là, donc j'utilise ce que j'ai sous la main. C'est un exemple que je cite souvent, mais si je dois dessiner un western... N'ayant pas vécu au Kansas en 1880, je vais dessiner mon western d'après les westerns que j'aurais vus au cinéma, donc ceux de John Ford, ou ceux que j'aurais lus en bande dessinée, les Blueberry. Et donc j'aurais l'impression de manger dans l'assiette de quelqu'un d'autre. J'utiliserais des codes visuels, des références, des décors que j'aurais pris. Là, mes décors, c'est moi qui les ai... Enfin, première fraîcheur. C'est des maisons, des lieux, des gens que j'ai été chercher moi-même et que j'amène au... Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire, en quelque sorte. Et pour moi... C'est même pas que c'est important, c'est que je sais pas faire autrement. C'est plus une incapacité qu'un choix. Enfin, du coup, c'est les deux, parce que j'ai transformé ça en choix et en... Mais voilà, c'est comme ça que je travaille, parce que je sais pas faire autrement, tout simplement.
Et comment tu vois ceux qui t'analysent comme engagés politiquement, justement, dans le fait qu'il y a un milieu ouvrier? Est-ce que ça représente toi ce que tu voulais faire, ou au contraire, c'est une surinterprétation du fait qu'on te donnerait...
Parce que il y a quand même, moi, ouais, il y a les mauvaises gens, mais il y a aussi un homme est mort. Quand même, c'est, ça fait, il y en a pas qu'un seul.
C'est voilà,
pas...
c'est.
Ouais, je sais. Ouais, j'ai alourdi mon dossier. Ouais. Ouais, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit les personnages de rural, donc qui sont des gens de ma génération, des agriculteurs, pourraient très bien, qui sont des militants à la Confédération paysanne, etc. Pourraient très bien être les enfants des gens, des mauvaises gens, qui sont donc mes parents et les gens de leur génération. Qui eux-mêmes, militants syndicalistes dans l'Ouest de la France, pourraient être les enfants des gens, des personnages de Un homme est mort, qui étaient ces jeunes ouvriers brestois qui se faisaient tirer dessus en 1950. Donc c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire pour ma défense. Ces trois livres-là ont été faits totalement indépendamment les uns des autres. J'ajoute même qu'Un homme est mort, j'étais pas censé le dessiner, puisque je dessine jamais les scénarios des autres. Chris a écrit cette histoire-là pour un autre dessinateur, et les différents événements ont fait que c'est moi qui l'ai dessiné, et je le regrette pas du tout, évidemment. Mais ces trois livres-là, effectivement, m'ont mis sur le front un tampon au dessinateur engagé que j'arrive pas, encre indélébile, j'arrive pas à l'enlever. Alors que j'ai pas le sentiment du tout d'être un dessinateur engagé. Je dessine des militants. Mais ça fait pas de moi un dessinateur militant. Je suis un dessinateur de militants pour ces livres-là. La politique, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc je l'évite pas. Et c'est vrai qu'en bande dessinée, on n'est pas très nombreux à parler de politique. Donc tout de suite, boum, on remet un coup de tampon sur le front. Mais voilà, donc je vis avec. Mais je ne me suis pas défini un jour comme dessinateur de la chose politique, encore moins dessinateur engagé. Je ne veux pas être engagé. Je suis engagé par personne. Je tiens beaucoup à ça. Et j'ai l'impression que quelqu'un qui est engagé, il soumet sa pratique artistique à un message politique qui revendique. Moi, je ne suis pas du tout dans cette hypothèse-là. Ma pratique artistique, mon dessin, mes livres sont largement prioritaires, ce qu'ils racontent, le récit que je vais raconter, sur le message sur le message des gens dont je parle. Même si, si je parle d'eux, si je parle des gens de la Confédération paysanne, évidemment, c'est que j'ai une sympathie pour eux. Hein, ça, c'est clair. Mais en même temps, j'ai besoin d'un pas de côté. J'ai besoin d'une petite distance, qui est celle du narrateur.
Et ce qui fait qu'aussi, te représenter, sûrement, ça aide aussi à mettre les choses aussi à distance. Puisque
c'est aussi le rôle de ça. Ouais.
Mais du coup, tu dis que t'es pas engagé et tout. Néanmoins, quand même... La préface de Rural, c'est quand même José Bové qui l'a écrit. Alors, je suppose que tu l'as quand même autorisé, ou tu l'as fait appel à lui, encore pire.
Je sais, oui.
Du coup, tu l'as demandé, et en demandant ça, nécessairement, tu peux pas nier le fait que tu t'engages, en demandant ça, tu t'engages politiquement aussi, d'autant plus que, après, c'est peut-être simplement lié à ta sympathie pour le mouvement, mais quand même, ça pose... un problème qui est celui de ton rapport à l'écologie et à la Confédération. Un problème, je veux dire, en termes de problématiques, assez problématiques, tu vas aller sous les verrous. Hein, en termes, juste simplement, ça pose la question de ton rapport à l'écologie et à la Confédération paysanne, dont tu retraces entièrement l'histoire, d'ailleurs, sur ces deux planches, ces trois planches de Rural. On voit tous des personnages et en plus des petits apartés qui dessinent... et qui décrivent finalement ce que c'est que la Confédération paysanne et le fait de choisir José Bové, nécessairement ça t'engage.
Oui, ça a commencé par une boutade de mon éditeur Guy Delcourt qui, après avoir lu le bouquin, en préparait l'impression, on m'a dit avec un sujet pareil, il faudrait une préface de Bové. Et puis mes trois camarades agriculteurs étant à la Confédération paysanne, ils m'ont dit « chiche, on va lui demander ». Et puis Bové a dit oui, donc il a fait cette préface. Moi, j'étais assez d'accord pour une raison simple. On parlait tout à l'heure du contexte dans lequel le livre est sorti. En 2001, un livre documentaire sur le monde de l'agriculture, commercialement, c'était du suicide. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune chance dans une librairie. En plus, c'était un petit bouquin noir et blanc. Enfin, voilà, il n'avait aucune chance. Et moi, je cherchais quelque chose qui permette de signaler aux gens sensibles au thème que le livre traitait, permettre de leur... Je cherchais un truc pour au moins leur faire signe dans la librairie, leur dire « Regardez, il y a un truc qui vous intéresse peut-être ». Et c'est le rôle de la préface de José, et j'ai aucun regret parce qu'elle a rempli son rôle, au moins en ce qui concerne les premiers mois de la vie du livre. Non seulement je l'assume, mais je la revendique, elle a ce rôle-là. Et puis le livre, il est politique. Quand tu parles de l'agriculture, alors on va revenir à votre sujet de base, quand tu parles à la façon de produire les éléments qu'on va nous tous absorber, qu'on va ingérer, enfin, si y a un truc qui concerne la plupart des gens, c'est bien ça. C'est même étonnant. L'agriculture, c'est un domaine extrêmement politique de mon point de vue. Et Rural parle de ça, je pense, effectivement. Et donc le côté politique de ce livre, j'ai pas du tout envie de l'éluder. Est-ce que ça fait de moi un auteur engagé? Non.
C'est la question.
Le côté politique, en tout cas, ta propre lecture peut se lire aussi par l'absence de certains personnages. Si on garde Rural, on a en effet l'archéologue que tu rencontres. On n'a pas les ouvriers du BTP pour qui c'est aussi un espace de travail et qui ne sont pas forcément Bouygues en tant que tel. Enfin, je ne sais pas si cette autoroute a été construite par Bouygues, Eiffage ou Vinci, mais qui ne sont pas le côté mondialisation, etc., qui sont des employés.
Ouais, bien sûr.
Ils sont absents, donc il y a quand même aussi peut-être...
En fait, voilà,
des choix.
C'est vraiment une question de choix et qui sont sans arrêt... comment on va dire ça? Dans Rural, je me retrouve dans une situation de conflit. Quand j'arrive avec mon petit carnet, mon appareil photo, il y a d'un côté des paysans, des habitants et d'un petit village qui sont en train d'essayer d'éviter cet obstacle qui leur arrive en pleine gueule, qui est une autoroute qui arrive droit sur leur village. Le village de Chanzeau, maintenant, il est encerclé par l'autoroute. Il est vraiment dans une poche, parce que le combat a été vain. En tout cas, moi, quand j'arrive en 99, je me retrouve dans cette situation. D'un côté, j'ai ces gens-là, qui n'ont absolument pas voix au chapitre, ils sont inaudibles. Pourtant, ils font des actions, ils font des barrages sur les routes, tout ça, mais il y a un choix qui fait qu'on ne les entend pas. Et en face d'eux, j'ai d'une part l'État et d'autre part ASF, Autoroute du Sud de la France, qui est un gros groupe international de construction d'autoroutes. Et ASF a, si je ne dis pas de bêtises, trois attachés de presse payés à plein temps pour faire la communication de leurs travaux. Donc tous les mois, dans toutes les mairies concernées, donc ça fait des dizaines de mairies entre Angers et La Roche-sur-Yon, sur le tracé de l'autoroute, il y a des centaines d'exemplaires d'une revue en couleur, papier glacé, qui arrive, qui est gratuite pour les gens. Et c'est des photos magnifiques, toutes sous un ciel bleu Photoshop, objectif, avec un chantier nickel.
Objectif à 87.
Mais les engins de travaux sont propres sur le sol. Je pense qu'avant de faire les photos, le mec, il passe tout au Karcher. T'as des énormes camions nickel qui brillent. Donc c'est sidérant, mais c'est magnifique. Enfin, techniquement, de leur point de vue, c'est une image magnifique de leur chantier. Et ça, tous les gens ont ça chez eux, parce que c'est gratuit à la mairie, c'est des beaux machins, ça, voilà. Donc, en termes de communication, de circulation de l'information, le débat est totalement déséquilibré. Si moi, j'arrive avec mon carnet et dans un souci d'objectivité, je me dis, je vais consacrer 50% de mes pages aux villageois et puis 50% des pages à SF, je vais juste entériner ce déséquilibre. Donc, je ne sers à rien. Et moi, mon choix, c'est de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, en gros. Mais je le dis, dans cette page-là, j'explique pourquoi je ne vais pas voir SF. Ce que je viens de vous dire, là, je l'explique au lecteur. C'est-à-dire que voilà, je ne parle que d'un des deux côtés du combat. L'autre côté, ils ont suffisamment de moyens, ils n'ont pas besoin de moi, en gros. Et alors, j'imagine que ça, pour un journaliste, c'est à deux doigts de la faute professionnelle. Pour un auteur de bande dessinée qui veut juste être un peu honnête, qui ne prétend pas être objectif, mais qui essaie d'être un peu honnête, c'est la seule façon que j'ai trouvé de faire, quoi. Voilà.
Et puis, c'est suffisamment honnête pour que tu dises que tu as un parti pris. Quoi, oui, que tu as un parti pris, c'est...
Avoir un parti pris, si on le dit, à mon avis, c'est plus honnête que de prétendre à une objectivité un peu incertaine.
Yes.
Et je le dis en permanence, dans le livre.
Mais du coup, la question qui vient, c'est est-ce que c'est pas parfois... Alors, c'est pas un peu facile de choisir des agriculteurs bio menacé par une autoroute. Après, c'est le projet du livre, est-ce que ça donne pas du coup une fausse image aussi du rural de voir finalement ces agriculteurs bio qui ont une démarche extrêmement éthique vis-à-vis de leur terre, vis-à-vis de la consommation. Et pourtant, l'agriculture française en est très très loin généralement. Donc du coup, tu donnes aussi une voie déformée en quelque sorte, puisque t'as grandi, tu zoomes sur une situation qui est, je sais pas si elle est extrêmement diffuse en France. On peut l'espérer ou pas, pour ça dépend du point de vue dans lequel on se place, mais c'est aussi déformer le zoom, puisque tu choisis... Alors pourquoi tu choisis pourquoi tu choisis le bio, justement? Parce que ça revient dans rural, ça revient aussi dans les ignorants.
Dans les ignorants, le biodynamique.
Oui, ça tient d'ailleurs, tu le dis que t'en parles pas, mais après tu fais un énorme passage sur le biodynamique.
C'est autre chose.
C'est autre chose.
Ouais.
Mais les deux, quand même, rappellent une certaine utilisation de la terre. Il y a un usage particulier qui n'est pas l'usage général.
Oui, c'est vrai.
Et pourquoi tu as cette fascination pour cet usage qui est finalement particulier et pas utiliser justement ta voix de BD, d'auteur de BD, pour dire, par exemple, je sais pas... Le quotidien d'un agriculteur de la Beauce en proie à la solitude, mettons.
Pour exactement les mêmes raisons que je ne vais pas voir ASF. C'est pour moi la même chose. Pardon de me citer, mais raconter, c'est cadrer. Cadrer, c'est éluder. Éluder, c'est mentir. C'est-à-dire que c'est un peu l'objet de cette préface-là. Et je prétends... Enfin, je déforme rien, puisque je me présente vraiment comme quelqu'un qui découvre une situation locale. Je n'arrive pas en disant « je vais vous raconter la vérité sur la situation de l'agriculture française au début du XXIe siècle ou à la fin du XXe ». Moi, j'arrive comme un gars qui connaît rien et qui arrive à la ferme et qui pose des questions idiotes, ou pas, enfin, ça m'arrive de poser des questions idiotes, mais en tout cas, qui découvre ce qu'est le travail d'une ferme sur une année. Donc je reste un an, je regarde les semis, les récoltes, les vélages, la traite, toutes ces choses-là, et je regarde le chantier, et j'arrive de façon très candide. Et ce que je raconte, ce que je découvre, je le raconte, et ce que je raconte, je le donne à lire, et le lecteur le découvre en même temps que moi. C'est aussi pour ça que je me dessine, ma posture, elle est celle-ci, elle est celle d'un non-spécialiste. Donc ce que je raconte là ne concerne que le lieu et le contexte que je découvre. Ce qui se passe dans la Beauce, chez les céréaliers, je sais un peu parce que je me suis intéressé au sujet comme ça, mais c'est pas mon sujet, tout simplement. Voilà. Donc, c'est important de se donner une limite dans le sujet qu'on va traiter.
Et pour le bio, du coup, cette fascination, le fait quand même que ça revienne plusieurs fois, c'est parce que, justement, c'est une posture à laquelle t'adhères ?
À l'époque, c'était quelque chose... Encore une fois, il faut pas oublier que dans les années 90, les choses ont énormément changé en presque 20 ans. Hein, ça a beaucoup bougé. Dans les années 90, c'était un truc très singulier, un peu intrigant, c'était très très minoritaire, ça l'est toujours, hein, c'est 5% de la culture française, le bio actuellement, je crois. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui faisait sens, qui portait quelque chose de nouveau. et dans l'agriculture productiviste depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris d'ailleurs les parents d'Olivier et Étienne Sébron, qui avaient la ferme avant, qui sont des gens maintenant qui sont absolument convaincus de ça, mais qui ont travaillé comme on leur a dit de travailler, c'est-à-dire agriculture intensive et chimique. Donc, en racontant le portrait de ces trois gugus-là, je fais le portrait aussi d'un moment de l'agriculture française où on commence à se rendre compte qu'on va dans le mur et que certains, très peu, trop peu à mon avis, des agriculteurs commencent à faire machine arrière et à chercher une autre méthode, une autre façon de travailler. C'est ça que je raconte.
D'accord.
Et c'est le choix, enfin c'est mon sujet, donc ce serait hors sujet d'aller voir ailleurs.
De même que tu ne vas pas demander la voix des ouvriers, alors qu'on pourrait faire une toute autre BD sur les ouvriers du bâtiment en proie à la construction de l'autoroute qui...
Bien sûr, alors, pour revenir à ta question, oui, c'est vrai, alors j'ai très peu vu les ouvriers de l'autoroute, tout simplement parce qu'il y a très peu de gens en fait. Au moment, en tout cas, des fondations, ce sont des grosses machines, c'est des gens qui travaillent, qui sont enfermés dans leurs machines, et puis surtout qui n'ont pas du tout droit à la parole. C'est-à-dire que tu ne les arrêtes pas, tu ne leur dis pas « arrête ton engin 5 minutes, on va discuter ». D'une part, qu'ils ont un contre-maître, ils ont leur parole n'est pas libre du tout. Il faudrait pouvoir le faire totalement à l'extérieur, et eux, c'est leur boulot, c'est leur façon de gagner leur vie. Je pense qu'ils ont rien, enfin, ils n'ont aucune raison d'aller contre ce chantier. Aucune.
Et au final, on a l'impression que tu as plus envie de raconter des histoires autour de personnes avec lesquelles toi tu as eu une rencontre, où tu arrives à comprendre leur démarche, c'est peut-être pas la tienne, mais tu arrives à la comprendre, plutôt que d'être de l'autre côté, je sais pas, prendre les grands patrons et être dans une approche totalement critique, aller les voir pour critiquer.
Ouais, c'est-à-dire qu'avec ces gens-là, je passe beaucoup de temps. Donc j'aime autant passer du temps avec des gens avec qui je m'entends bien, plutôt qu'avec des gens avec qui je ne m'entendrais pas. Ceci dit, ça limite un peu la portée de l'exercice, c'est vrai. Le livre que je suis en train de faire en ce moment, par exemple, j'interview des gens avec qui je suis beaucoup moins en phase. Éventuellement beaucoup moins en phase, et il y a un moment où il est temps de le faire, je pense. Un moment où tu ne peux pas sans arrêt utiliser la même méthode. Un moment où il faut aller voir ailleurs, et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Mais c'est vrai que... Avec Richard Leroy, mon copain vigneron, là, on a passé un an et demi quasiment quotidiennement ensemble, quoi. Donc, il se joue des choses qui dépassent forcément le cadre du livre. Voilà, si on n'a pas un minimum d'atomes crochus, ça c'est vite l'enfer. Et puis, j'ai besoin de sa disponibilité. Une des choses que je redoutais, c'est qu'au bout de 6 mois, ils me disent « Bon, cette expérience m'emmerde, on arrête. » Là, j'aurais été vraiment embêté, parce que j'avais un bout de livre commencé, j'avais un contrat d'édition, j'avais un projet en cours d'élaboration, et puis c'était son droit le plus strict d'en avoir marre, d'avoir un gars sur le dos qui lui massacre ses pieds de vigne parce qu'il ne s'est pas taillé, qui fait des... Enfin, voilà, je l'ai fait, donc j'aurais pu comprendre ça. Je le redoutais, au début.
Et ça t'est arrivé d'avoir des projets de bande dessinée avortés, justement, parce que la rencontre ne s'est pas passée comme il aurait fallu pour la BD.
Dans Rural, il y a des gens que j'ai rencontrés, où j'ai dessiné notre entrevue, et le petit pacte dont je vous parlais tout à l'heure n'a pas tenu, donc les pages ne sont pas dans le livre. Notamment un notable du coin qui était sans doute pas pour rien sur le fait que l'autoroute soudain s'éloigne de son château, passe au large et... ils reviennent plus loin.
Du coup, tu as remplacé par « je ne vous le dis pas » qu'il avait fait contourner l'autoroute.
Voilà. Et puis, il y a des livres sur lesquels j'ai des témoignages, j'ai déjà commencé à travailler, où j'ai pas... Là, c'est plutôt mon incapacité à moi à trouver la porte d'entrée. Donc, il y a des livres qui vont sans doute pas se faire, parce que je trouve pas la façon de le raconter.
Et moi, du coup, j'ai une question plus générale sur cette planche, on va le voir. Sur celle-là, tu dis... quelques centimètres de terre, il y a 19 siècles, 2 mois, donc 2 mois pour les découvrir, c'est le fameux archéologue dont on parlait tout à l'heure, puis place aux bagnoles, c'est le progrès petit gaulois, bon le petit gaulois qui est lié au fait que tu parles de la Gaule, mais du coup est-ce que tu as, deux questions, est-ce que tu n'as pas peur que ton discours soit pris, d'une part soit récupéré politiquement, et deuxièmement il soit pris comme un discours général contre, en quelque sorte, avec tous les guillemets qu'il faut, le progrès ou contre une certaine... soit pris d'une manière générale comme un pamphlet contre le moderne. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça, quoi, je veux dire, si...
Récupérer politiquement, ça m'inquiète pas plus que ça. Je sais pas. C'est quelque chose que je conçois assez mal et qui... Enfin... Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que le livre est publié, il vit sa vie. Il est lu, il n'est pas lu, il est aimé, il n'est pas aimé, il y a des débats. C'est déjà un luxe, hein, d'ailleurs, quand au moins... J'ai la chance, quand je fais ce genre de livre, d'avoir l'occasion d'en parler beaucoup en public. Après, ouais, ce livre a 13 ans maintenant, et là, on est au printemps 2014, et j'en parle encore. J'en ai pas marre. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce sont des livres qui m'occupent avant et après leur publication. Et je sais que c'est un luxe, je sais que c'est pas le cas de tous les livres et de tous les auteurs, donc je vais pas bouder là-dessus. Ce que t'appelles récupérer politiquement, c'est s'il est partie prenante d'un débat plus large, ça me va très bien, moi je suis même flatté qu'il soit récupéré politiquement si c'est ça. Ensuite que je pose la question du progrès, oui absolument. J'ai illustré et écrit dans un livre qui raconte l'expérience des faucheurs d'OGM, par exemple. C'est typiquement le genre de livre. Avec José Bové, à nouveau, j'ai assisté à des procès, j'ai dessiné. Je suis allé faucher pour me faire arrêter moi-même. Enfin, j'ai vraiment fait le truc à fond. Et,
c'est pratique, ça, de dire après que c'est une expérience, en fait, alors que...
Oui, mais ça, le juge s'en fout. Et ce que je veux dire, c'est que... Si, la question, très clairement, elle est là. Et sur l'OGM particulièrement, on pourrait parler de Notre-Dame-des-Landes, c'est le progrès technologique est-il le progrès ? C'est une question... dont on ne peut pas faire l'impasse, enfin, on ne peut pas faire l'économie maintenant, je ne pense pas. Et on peut la faire de moins en moins, même. Et c'est une question qui est sans doute au cœur d'un livre comme Rural, sans doute, ouais. Ouais.
Et est-ce que... parce que dans tes publications, il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure sur la tempête du 26 décembre 1999, des publications qui sont un peu presque des commandes par rapport aux médias, etc. Je pense également à ta participation à un ouvrage collectif qui s'appelle Immigrants, où, alors si j'ai bien lu la dernière lettre d'information de la revue Dessinée, tu apparaîtras sur le numéro 5, a priori.
Ouais, tu as bien lu.
Donc c'est pas le sujet, donc peut-être une info exclusive pour la salle.
Parler, ouais.
Mais est-ce que, comment tu vis aussi ce type d'expérience qui est plus sur commande, où tu as un thème immigrant, le jour où, ça, c'est large, mais tu as quand même quelque chose qui te cadre au départ.
Ouais, je considère pas que ce soit de la commande. La bande dessinée de commande, ça existe, hein, c'est qu'on te donne c'est en général de la bande dessinée plus ou moins promotionnelle ou plus ou moins institutionnelle, ça je fais très peu. Je fais pas même, parce que j'ai la chance de pouvoir me consacrer qu'à mes livres à moi. Mais quand on me demande un exercice, moi je pense ça plutôt comme un exercice sous contrainte, un truc un peu stimulant. La page qui est affichée là, c'est une page que Télérama m'a demandé pour fêter le passage de l'année...
c'est 2009,
oui, peut-être. Immigrant, c'est juste un dessin, j'ai juste fait le dessin de couverture. Le livre sur le jour où, là, le livre sur les 20 ans de France Info, on me dit, est-ce que tu as un truc à raconter sur un de ces événements-là ? Alors moi j'ai choisi la tempête et c'est l'occasion de faire un récit court, de trouver une autre technique narrative, enfin c'est un petit exercice ponctuel dans un travail long. Moi mes livres c'est souvent 2 années de ma vie, donc c'est un travail de marathonien, on s'y met tous les jours et il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où on rame un peu, et avoir ce genre de petit exercice c'est des pauses, ça oxygène un peu, et je ne le fais que si je le sens, quoi. Je le fais pas parce qu'il faut le faire ou parce que ça va me faire gagner un peu plus de sous, je sais pas quoi. Je le fais que si je le sens, si c'est l'occasion de faire un petit truc que j'ai pas encore fait. Donc c'est assez stimulant. Si je le sens pas, je dis non, tout simplement. Et en l'occurrence, là, j'avais envie de développer ce genre de récit. Et d'ailleurs, depuis ce récit-là, j'ai envie de développer sur du plus long terme ce genre de récit de bande dessinée qu'un texte plus écrit, avec quelque chose de plus littéraire, comme ça. Mais j'ai pas encore le temps d'y penser assez, mais un jour, ça viendra peut-être.
Et l'exclusivité de la revue Dessinée pour le numéro 5 ?
Oui, alors donc, ce sur quoi je travaille en ce moment, je dessine Lyon, figurez-vous. La revue Dessinée, alors si vous ne connaissez pas, est-ce que vous en avez là des revues dessinées là,
non, voilà.
La revue Dessinée, c'est un trimestriel qui vient de sortir, dont le premier numéro est sorti en septembre dernier, donc en septembre prochain, ça sera le premier anniversaire. Et c'est une revue donc trimestrielle qu'on trouve en librairie, exclusivement consacrée à la bande dessinée, documentaire et de reportage. Voilà donc leur site. Et c'est pour moi une des expériences éditoriales les plus stimulantes de ces dernières années en bande dessinée. Alors évidemment, la bande dessinée de reportage, c'est un truc qui m'est cher. Et donc, ils m'ont proposé de travailler avec eux. Et donc, je suis en train de travailler sur un récit que je fais avec un co-scénariste qui s'appelle Benoît Colomba, qui est grand reporter à France Inter. Et le récit qu'on est en train d'établir, c'est un récit qui va se dérouler en gros la décennie 1970 en France. à l'époque où il y avait une espèce de violence politique qui était due notamment au SAC, le Service d'Action Civique, qui était une espèce de service d'ordre du RPR à l'époque, enfin de l'UDR, qui est l'ancêtre de l'UMP. Ouais. Pour les plus jeunes, je suis obligé de vachement recontextualiser, je me suis aperçu de ça. Et c'est un moment où le monde politique et le milieu, les gangsters, notamment à Lyon, il y avait une espèce de porosité assez troublante. Et on commence notre récit par l'assassinat du juge Renaud à Lyon, montée de l'observance, en juillet 1975. Et notre récit va donc commencer ce jour-là et va se terminer par le suicide, entre guillemets, de Robert Boulin, juste avant l'élection de Mitterrand en 81. Robert Boulin était censé être le premier ministre de Giscard en cas de victoire de Giscard. Et donc il était retrouvé suicidé, entre guillemets, dans un étang de la région parisienne, avec des barbituriques dans l'estomac, des liens au poignet, des traces de coups et de nez cassé.
Il s'était planté 19 coups de couteau dans le dos avant.
Et... Oui, enfin voilà, c'est un... Et Benoît Colombat a déjà donc écrit un livre épais comme ça sur ce sujet, qui fait maintenant un peu référence, il a déjà quelques années. Mais en tout cas, voilà, on va parler de cette époque-là. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, là je rencontre des gens avec qui je ne suis pas en face du tout, des policiers d'extrême droite, des gens qui sont très très loin de mes camarades agriculteurs de la Confédération Paysanne. Et je bosse avec un journaliste, chose que je n'ai jamais fait non plus, alors qu'en général je tente de mettre des barrières avec le journalisme dans ma pratique d'auteur de bande dessinée. Donc en quelque sorte, là je vais sur un terrain où je ne vais jamais parce que j'ai besoin de sortir de ce que je sais faire en quelque sorte et de me mettre dans une situation que je ne sais pas faire.
Il faut dire que la revue dessinée, c'est vraiment conçu comme quelque chose d'expérimental.
Voilà, c'est vraiment une expérience. Donc en septembre sera publié notre premier chapitre qui sera consacré donc, à l'assassinat du juge Renaud et à ses conséquences et à ses origines. Donc voilà, et le livre lui-même sera publié fin 2015 dans son intégralité.
Et du coup, est-ce que, à part justement ce petit récit qui est présent, la revue dessinée et l'atelier, qui est cette revue que tu as fait, pas d'improvisation, mais que tu dessinais au fur et à mesure.
Ça, c'est un petit livre que j'ai fait.
Est-ce que tu as eu d'autres velléités de BD expérimentales, ou est-ce que tu as eu envie d'en faire, ou de fixer plus des choses comme ce que peut faire Loubapo, c'est l'ouvroir de.
Bande dessinée potentielle.
Potentiel, c'est comme le Loulipo, mais version bande dessinée, il se fixe des règles, par exemple, toujours la même image et pour raconter une autre histoire. Est-ce que tu as eu envie de te lancer là-dedans ou c'est trop différent de.
Non, je suis un lecteur de Loubapo et de Loulipo d'ailleurs, j'aime bien ce genre d'exercice littéraire sous contrainte. Mais je considère que d'une certaine façon, la bande dessinée documentaire, c'est aussi du récit sous contrainte. Donc en termes de contraintes, ça va, j'ai ma dose, j'ai pas besoin d'en rajouter, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant, ouais, c'est vrai.
Ouais. Et du coup, par rapport à l'ouverture, tout le monde n'est peut-être pas allé au cinéma, mais a au moins vu la bande-annonce de l'adaptation au cinéma de Femme nue. Comment tu as vécu cette adaptation? Est-ce que pour toi, il y a une trahison par rapport au fait que ce n'est plus dessiné, par rapport au fait que ce n'est pas du tout la même œuvre? Comment tu vis ce type de passage d'un art à l'autre? Parce que le cinéma actuellement, le cinéma français semble presque n'avoir pour thème que la bande dessinée dernièrement. Enfin, caricature
c'est un peu exagéré, mais tu as raison.
Il y a quand même une forte tendance.
Souvent, les producteurs et les réalisateurs français se disent « Mais il y a des gens qui font de la bande dessinée, on peut peut-être aller voir ce que c'est. » Et c'est nouveau, oui, c'est vrai. Donc oui, Lulu Femme Nue est adapté au cinéma par Solveig, Hans Pack, et le film est sorti en janvier, là. Ça a été une très longue aventure pour monter ce projet. Ça fait presque 4 ans qu'on est dans cette galère, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas partie prenante de l'adaptation, mais j'ai suivi tout ça d'assez près, forcément. Non, c'est une expérience très, très enrichissante, pour moi, très intéressante. Que vous en dire, c'est pas une trahison, du tout, mais c'est autre chose. La seule chose que j'ai demandé à Solveig, quand on s'est mis d'accord sur cette adaptation, je lui ai dit, voilà, ma Lulu à moi, elle existe. N'en fais pas un copier-coller au cinéma, ça n'a aucun intérêt. Prends tes aises et fais-en autre chose. Ce que j'espère, c'est juste que ta Lulu et la mienne s'entendront bien, sur le fond. Voilà. Et au final, le contrat est rempli, en quelque sorte, puisque j'ai l'impression qu'elles s'entendent pas mal. Moi, ça m'a permis de mesurer, entre autres, de façon incidente, que pour ce qui est du récit en images... l'auteur de bande dessinée est celui qui bénéficie de la plus absolue liberté. On n'a pas du tout de pression économique ni financière, parce que la bande dessinée, ça ne vaut rien techniquement. Enfin, je veux dire, ce qui est nécessaire techniquement pour faire la bande dessinée ne vaut pas grand-chose.
Et c'est sa richesse aussi.
Et c'est sa liberté, absolument. C'est sa liberté, parce que j'ai vu... Là, pourtant, Lulu Famu, c'est un petit film avec un petit budget, qu'il était très compliqué de rassembler. Il a fallu raboter à tous les coins. Enfin, c'était une expérience très instructive à ce niveau-là. C'est très intéressant de voir ça. Ça ouvre plein de perspectives. Et puis le résultat me convient tout à fait. Donc je suis très content de tout ça. Mais j'ai vu que c'était très compliqué, que c'était une autre planète. Et bon, c'est intéressant de voir une autre planète. Mais ça m'a permis de mesurer ça, de mesurer que mes quelques rames de papier et mes deux ou trois crayons me donnent une liberté invraisemblable. Je le savais déjà, mais là,
C'est ce que nous disait Christ. Christ réfléchit en ce moment, où il a été contacté pour adapter Notre Mère la Guerre, qui est sa BD sur la Première Guerre mondiale. Et du coup, il disait, c'est fou, parce que pour dessiner un char, il suffit juste d'un crayon, alors que pour en faire venir un sur un plateau télé, sur un plateau de cinéma, tout de suite, c'est vachement plus compliqué. Du coup, ça demande vachement plus d'argent. Et moi, je rebondis sur ta vision de la BD. Et ta BD, je trouve que dans beaucoup de tes œuvres où tu dévoiles justement ces rencontres, où tu réussis à rendre dans les dialogues, alors que c'est quasiment que des dialogues, tu réussis à amener quelque chose de dynamique et que ça s'essouffle pas, on se fait pas chier en lisant tes dialogues, alors même que, mine de rien, t'es dans un système de gaufrier qui pourrait être assez finalement à la fois un peu rébarbatif, alors que pas du tout, c'est très dynamique. Je veux savoir comment tu réussis à créer à la fois une BD qui est grand public, comme en témoignent du coup les ventes simplement, et l'aspect un peu d'aperçu intime, parce que tu nous plonges finalement dans quelque chose de très intime parfois, sans dévoiler forcément des éléments de la vie privée, mais on a l'impression de connaître un peu plus leur vie, notamment pour la maison qui est détruite au Bignon. On s'en serrait à la gorge, on a tout ça. Comment tu réussis à doser à la fois je dois dévoiler des choses pour intégrer le lecteur, et en même temps je ne peux pas trop en dévoiler par égard notamment aux gens que tu connais, par égard
je ne sais pas exactement répondre à ta question. Tout ce que je sais, c'est que quand j'écris une scène de bande dessinée, je parle à une personne, j'ai toujours ça en tête. Et c'est une des différences avec le cinéma. Je pense qu'au cinéma, tu parles à 500 personnes dans la salle. Moi, je parle à une personne. Je lui parle même dans le creux de l'oreille. C'est-à-dire que le livre, pour moi, c'est vraiment un lien entre deux êtres humains. Celui qui fait le livre et celui qui lit. Et à partir de là, je ne cherche pas à gueuler. Je n'ai pas besoin de gueuler. J'ai juste besoin d'être un peu précis, de faire en sorte que la personne en question, je lui propose un rythme de lecture qui soit un peu confortable. Et si ça fonctionne, c'est pas évident que ça fonctionne, mais si ça fonctionne, j'ai le sentiment que je peux raconter des choses qui pourraient être rébarbatives, t'as raison. On peut être pendant 10 pages, juste avec deux personnes en vis-à-vis qui discutent. Et c'est vraiment une question de découpage et d'attention à la personne qui va lire le livre quelques mois plus tard, quoi. Alors après, techniquement, comment ça se traduit, j'en sais rien. C'est vraiment une question de pratique. Mais je sais juste que c'est ça le fil duquel je dévie pas, quoi. Je parle pas à un public, je parle pas à un lectorat, je parle à une personne.
Oui, c'est peut-être ça.
Mon éditeur, mon banquier et moi-même serions ravis que la personne en question soit multiple. C'est pas la question, mais en termes d'individu, c'est ça, c'est vraiment là qu'est le cœur du travail de la bande dessinée, je pense.
Et du coup, puisque tu parles qu'à une personne, il va falloir l'amener à ta bande dessinée. Comment tu choisis les titres? Parce que les titres sont quand même marquants. Enfin, y a quelque chose, rural, point d'exclamation, chronique, une collision politique, les mauvaises gens, y a les ignorants aussi, c'est des choses qui...
Dépréciatif souvent d'ailleurs, les mauvaises gens, les ignorants. Ouais, ouais, est-ce que c'est dépréciatif d'être traité d'ignorant? Ça, c'est justement la question.
Non, mais en tout cas, ça alerte sur quelque chose d'assez...
Même rural avec un point d'exclamation,
il y a
un
côté...
Genre plouc.
Ouais. Oui, bah c'est un peu ça.
Tu vas arriver sur les clichés, justement.
Il faut un petit peu accrocher. J'ai un rapport assez compliqué avec mes titres. En général, j'en trouve un qui est un titre de travail, qui est nécessaire pour le contrat avec l'éditeur. C'est pas forcément le titre final, mais il arrive souvent au moment de sortir le livre. J'ai une espèce de moment de flottement et je me dis, on arrête tout, on change les titres. Et donc ça arrive souvent. Les mauvais gens portaient pas ce titre-là avant. Lulu Femme Nue, c'est toujours appelé Lulu Femme Nue, mais voilà, au moment de faire la couverture, j'ai dit à l'éditeur, il faut qu'on trouve un autre titre, c'est ridicule, Lulu Femme Nue, on a la bouche comme ça, ça n'a pas de sens. Et là, j'ai eu un tir de barrage de toute la maison d'édition, en disant, on touche pas à ça, c'est vachement bien. Et bon, rétrospectivement, ils avaient raison, parce que le film s'appelle aussi Lulu Femme Nue, enfin, il y a un côté un peu musical, sans doute, qu'à l'époque, je ne voyais plus.
Et mystérieux aussi.
Et peut-être un peu mystérieux, puis il y a une espèce d'allitération un peu, voilà, un peu rigolote sur le son U. Et donc c'est quelque chose de totalement instinctif, mais duquel je ne suis jamais sûr. Puis au bout d'un moment, c'est comme le prénom qu'on donne à un enfant. Enfin, il y a un moment, on se pose plus la question, c'est son nom. Voilà. Même si on l'a appelé Tartampion, ce que je souhaite à personne, mais enfin, il y a un moment, Tartampion mange ta soupe, à 15 ans, on n'y pense plus qu'il s'appelle Tartampion. J'imagine. Et ben voilà, Lulu Femme Nue au rural, moi j'avoue que j'ai totalement perdu de vue que c'est un titre, je sais juste que c'est un de mes livres et que et voilà, ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe.
Juste, je me permets de faire un aparté sur certaines séquences de la BD rurale, moi que je trouve particulièrement fortes, mais on les a choisies un peu ensemble. C'est-à-dire que par exemple, on a deux pages qui suivent, cette page où il y a les 120 hectares magnifiques du Gaec du Causon. Et en fait, s'en suivent trois petites cases qui montrent en contre-plongée avec une saturation de gris. Genre, c'est vraiment deux planches que je pense qu'on aurait du mal à retrouver au cinéma d'ailleurs. On en parlait, ouais. Ce serait très difficile, quelque chose pour être. On aurait peut-être la contre-plongée, on l'aurait, mais peut-être pas ce jeu entre d'un côté du blanc quasiment immaculé, y compris dans le ciel, et là, paf, avec l'aspect poussiéreux, l'aspect saturé de gris. C'était juste un petit aparté, histoire de voilà. Et du coup, pour rebondir quand même là-dessus, pour pas que ce soit vain, est-ce que tu as des symboles, quand tu représentes le rural, juste pour revenir peut-être une dernière fois sur ça, est-ce que quand tu représentes le rural ou la campagne, tu te dis genre je dois intégrer des symboles ? Parce que ce que nous disait une des intervenantes ce matin, c'était que par exemple dans Les Mauvaises Gens, la première planche, ça donne à voir quand même un petit village avec la ligne du clocher avec... moi je vais retrouver, c'est l'une des premières. C'est voilà, on a le clocher, et on a la ligne avec les arbres, le clocher, et le petit village, et les champs. Est-ce que tu as des symboles pour toi qui sont, disons, nécessaires pour montrer le rural, ou simplement tu dessines comme ce que tu vois en fait ? Est-ce que tu te dis...
Ben, tu sais, quand tu dessines un village du bocage des Mauges dans l'ouest de la France, tu n'échappes pas d'une part au clocher. Et ça tombe plutôt bien parce que même au niveau de la topographie des lieux, tu n'y échappes pas. Je veux dire, c'est un moutonnement de haies et des clochers. C'est comme ça, et encore maintenant. Et en même temps, sur ce que je vais raconter, sur ce dont je vais parler dans tout le livre, le clocher, c'est un élément déterminant parce que je vais raconter une histoire de catholique. Je vais raconter une histoire de gens qui n'échappent pas à l'emprise catholique. Et en plus, commencer ce livre, dont je sais déjà qu'il va se terminer par l'élection de François Mitterrand, je ne sais pas si tu te souviens de l'affiche de Mitterrand, La Force Tranquille, c'était quasiment ça, c'était un petit paysage de Bourgogne avec un clocher. Donc il y a tout, c'est très important le départ. Enfin, je soigne beaucoup les premières et les dernières, enfin je soigne toutes les pages d'un livre. Et j'essaie dans la mesure du possible, en tout cas je porte une attention particulière aux toutes premières et aux toutes dernières d'un livre. Et là en l'occurrence c'est vraiment ça. Alors l'espèce de zoom sur la carte et le détail et revenir dans la rue avec toujours un clocher, mais on est du coup dans la rue où on voit mon père jeune se faire bousculer par des soldats allemands, enfin pour rigoler quoi, il ne prend que dans une poubelle, bon on s'amuse comme on peut. Tout ça c'est évidemment fait pour trouver narrativement la solution la plus évocatrice possible. Mais ça, dire ça, c'est soulever le capot, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est que les gens lisent la chose naturellement et qu'ils voient ces choses-là sans en avoir forcément conscience. Mais ça fonctionne à leur insu, en quelque sorte.
Donc le côté Mitterrand, comme ça, moi, je ne l'avais pas du tout vu, mais c'est vrai qu'on doit le dire. Effectivement, ça finit par Mitterrand. Et... D'accord. Bah, je crois que... À part si tu as une dernière question...
Peut-être une dernière question pour vous laisser la parole enfin. Ce serait quoi la BD tech idéale d'Étienne Davodeau ?
Ouais, du coup.
c'est pas très compliqué. Vous allez à la fin des ignorants. Pour faire le livre Les Ignorants avec mon copain Vigneron, alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, je dois vous dire que Les Ignorants, c'est donc mon séjour d'un an et demi chez un vigneron en tant qu'ouvrier. Parce que je connaissais pas grand chose au monde du vin, mais comme je me suis pas fait payer, en échange, lui ne connaissait rien au monde de la bande dessinée, je l'ai forcé à lire de la bande dessinée. pour qu'ils découvrent tout ça. Donc on a passé un an et demi à boire des bonnes bouteilles, à lire des bons livres, à voir des vignerons et des auteurs de bandes dessinées, à aller dans des salons du vin et des salons du livre.
C'est un peu l'idée du paradis.
Je me suis dit, ouais, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais fait ça 10 ans. L'éditeur ne voulait pas. Et donc à la fin du livre, j'ai décidé de recenser une partie, parce que je n'ai pas pu tout mettre, une partie, alors c'est la liste bu-lu, de tout ce qu'on avait bu et de tout ce qu'on avait lu. Et à Richard Leroy, donc, je n'ai donné à lire que des livres que j'aimais. Donc la liste lue des ignorants, ce sont des livres qui, de mon point de vue, sont très intéressants à lire. Les vins sont aussi très intéressants à boire, mais ils ne sont pas tous disponibles. Mais en tout cas, les livres, eux, la plupart le sont.
Côte Rôtie 91, je ne suis pas sûr qu'on en retrouvera encore.
Je ne sais pas, ouais, c'est pas certain. Mais en tout cas, si, voilà, c'est ce que me disait notre camarade Libraire tout à l'heure, qu'il se servait de la liste lue là, pour conseiller des livres de bande dessinée. Évidemment, c'est un choix absolument subjectif. Donc il est très possible que vous vous emmerdiez à lire un de ces livres, mais je ne serai pas responsable de ça. En tout cas, moi, ça, c'est des livres qui m'ont plu.
On va peut-être...
Peut-être laisser la question. Nous, on en a encore 2-3 en réserve, au cas où la salle soit...
Beaucoup, en fait.
On vous laisse quand même la parole, histoire de ne pas faire... Pire, on reviendra et tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser haut et fort. Surtout fort.
Je vais me lancer dans la première question, rebondir sur quelque chose qui était dit avant, ça paraît une contrainte. Moi, tout de suite, le livre qui m'est venu à l'esprit, c'est... alors, je ne sais plus si c'est Le chien qui bouche ou La chien qui bouche. Le chien qui bouche. Parce que là, il y a effectivement une contrainte. C'est un livre de commande, entre guillemets, avec le fait, je ne sais pas exactement quelle est la contrainte du éditeur, mais il faut que le musée du Louvre soit un personnage important dans l'histoire.
C'est ça, ouais.
Alors, pourquoi est-ce que...
Alors,
ce projet vous a motivé?
Pour resituer pour les gens qui ne connaissent pas ce livre, Le chien qui louche, c'est mon dernier livre à ce jour. Et c'est pas mal ça, ouais. Je vous vois mieux. Merci. Les éditions Futuropolis, donc qui est mon éditeur actuel en tout cas, et le musée du Louvre ont créé un partenariat il y a maintenant 7 ou 8 ans permet à des auteurs de bande dessinée de venir au Louvre, au musée du Louvre, y faire de la bande dessinée. La contrainte, c'est à peine une contrainte, elle est très large, parler du Louvre dans un livre de bande dessinée. Pour faire ça, on donne à l'auteur, pour la durée de la réalisation de son livre, un badge qui lui permet de rentrer au Louvre où il veut, quand il veut, sans restriction. Moi, quand j'ai su ça, le premier livre publié, il y a 7-8 ans, c'est « Période glaciaire » de Nicolas de Crécy. Quand j'ai su qu'on pouvait avoir ce badge, j'ai dit j'en veux un. Je vais vous trouver une super idée. J'ai eu le badge, puis après je me suis dit bon, il faut que je trouve une super idée maintenant. Donc Alors, j'avais d'autres choses à faire. J'avais lu Famille de Terminé, après j'ai fait Les Ignorants. Bon, des années ont passé, mais en tout cas j'avais toujours en tête de faire ce. L'idée d'avoir le Louvre pour moi de façon ouverte, absolue, c'est un truc auquel je ne pouvais pas résister. Alors c'est une contrainte si on veut, mais des contraintes comme ça, moi j'en veux bien 10 par jour. Et donc on m'a donné ce badge pendant 3 ans, parce que j'ai traîné un peu. Donc pendant 3 ans, j'allais au Louvre. Autant que je voulais.
Quand à 3h du matin.
J'ai passé une nuit au Louvre, par exemple. Je suis rentré un soir à 18h, j'ai dit j'ai le badge. Ok, d'accord. Ah non, il faut prévenir, parce que là, sinon, il y a les veilleurs qui nous tombent dessus. Il y a deux cas, il faut prévenir, c'est la nuit. Donc j'ai passé une nuit complète. Donc je me suis laissé enfermer à 18h, puis sorti à 8h le lendemain matin. Puis il y a les toits du Louvre. On ne peut pas aller sans les pompiers, parce que c'est un peu casse-gueule, il y a du zinc, tout ça, des échelles. Mais pour le reste, quand c'est fermé, quand c'est ouvert, quand c'est interdit au public. Le Louvre est à nous, c'est en quelque sorte une extension de mon atelier pendant un an et demi. Et j'y fais ce que je veux. Alors voilà, c'est typiquement le genre de proposition alléchante à laquelle je ne résiste pas. Donc quand j'ai été libéré, entre guillemets, c'était pas vraiment des prisons, de mes livres précédents, j'ai pu m'y mettre. Et pendant un an et demi, deux ans, j'allais au Louvre, je ne sais pas combien de fois, je suis allé très souvent. Et puis j'ai installé une histoire qui est cette petite comédie qui s'appelle Le chien qui louche, quoi. Donc ce qui m'a intéressé au Louvre, moi, à force d'y passer du temps, c'est les gens qu'on voit pas, les invisibles, c'est les surveillants. Les surveillants voient passer 10 millions de personnes par an devant eux, qui non seulement les voient pas, mais les considèrent pas. Les considèrent légèrement moins que les sièges ou les meubles. Voilà, ce sont des gens qu'on méprise absolument. Moi, je me suis intéressé à eux, j'en ai rencontré pas mal, j'en ai interviewé une quinzaine. Il y en a un ou deux qui sont devenus mes référents. Et mon personnage principal, c'est un surveillant qui rencontre une jeune femme dont il tombe amoureux, il découvre sa belle famille, qui sont des gens qui vivent dans le Maine-et-Loire, tiens donc, et qui, du monde de l'art, n'ont absolument rien à foutre. Et qui, le Louvre, ils voient vraiment ce que c'est un truc à Paris avec une pyramide pointue au milieu, mais ils sont jamais allés, ils s'en foutent, ils vivent très bien sans, c'est pas des pauvres gens, ils ont fait fortune dans le meuble, ils sont sûrs d'eux, ils ont, voilà, c'est des winners, et ils trouvent que le nouveau beau-frère, là-bas, il fait un métier de glandu parce qu'il passe son temps assis au Louvre. Mais puisqu'il est là, autant qu'il se rend utile, il y a une toile de l'arrière-grand-père au grenier, et ça serait bien qu'elle aille au Louvre, s'il te plaît, tiens, mets-la au Louvre. Voilà. Donc évidemment, la question qui est posée en sous-texte, c'est qu'est-ce qui fait qu'une toile peut rentrer au Louvre ou pas? Le chien qui louche, c'est le nom de cette toile, qui est une croûte sans nom, dessinée par Gustave Beugnon, on ne connaît rien, en 1800 et des brouettes.
Ça existe vraiment?
Bah, elle existe parce que j'ai dessiné, mais sinon. Et donc, ce garçon, qui est surveillant au Louvre, qui n'a évidemment pas le pouvoir de faire rentrer ou sortir une toile du Louvre, se retrouve emmerdé. S'il veut être bien vu de sa belle famille, il doit trouver une façon de faire rentrer cette croûte au Louvre. Donc, c'est l'histoire d'un cambriolage au Louvre, un cambriolage à l'envers. Voilà. Donc, c'est une comédie, mais avec un sous-texte que j'espère un peu évident sur ça. Sur qu'est-ce qui fait qu'une toile a droit à la légitimation du Louvre ou pas. Mais pour moi, c'était l'occasion d'utiliser cette carte blanche qu'on me donnait au musée. Donc c'est une contrainte très relative.
Ouais. Du coup, je rebondis juste sur la question, parce qu'il y a un autre auteur qui est aussi connu, qui a travaillé sur le Louvre, qui est Enki Bilal,
qui a travaillé sur le fantôme
du Louvre. Ouais. C'est le même genre de...
Alors Enki Bilal a un peu triché, parce que c'est pas de la bande dessinée au sens propre. Non, c'est des toiles. En fait, il a photographié des toiles qu'il a retouchées à la peinture. Mais oui, on peut considérer que ça fait partie de la coédition Futuropolis-Le Louvre. Il y en a d'autres. Il y a Marc-Antoine Mathieu qui a fait les sous-sols du Révolu. Révolu étant l'anagramme du mot Louvre. Il n'y a que lui pour trouver ça. Il y a un livre magnifique de David Prudhomme qui s'appelle La traversée du Louvre, qui est, à mon avis, le plus beau de la collection. Il y en a maintenant une petite dizaine.
Il y a Éric Liberge aussi.
Oui, exact, Éric Liberge. Et là, il y a Taniguchi qui en prépare un. Il est venu l'été dernier... Avec son interprète, tout ça, enfin, il y a plein de gens, c'est très compliqué de faire venir Taniguchi en France, il faut lui louer un appartement, c'était monstrueux, mais enfin c'est fait, donc il est en train de la dessiner, et c'est un truc qui continue, quoi. Et il y a même maintenant le Quai d'Orsay, puisque Catherine Morris vient de sortir un livre en coédition avec le Quai d'Orsay. Et moi, ce qui m'intéressait aussi là-dedans, pour faire court, parce qu'on est chemin, pardon, je développe un peu, c'est que il y a 10 ans, que l'institution du Louvre invite un auteur de bande dessinée, c'était juste impossible. Et le chien qui louche, cette vilaine croûte qu'on fait faire rentrer au Louvre, métaphoriquement, c'est la bande dessinée qui arrive au Louvre. Voilà, mais ça, ils l'ont vu qu'après.
Et est-ce qu'il y a une réaction est-ce que vous avez un retour de l'institution Louvre par rapport au livre ou pas du tout?
Ben, globalement, ils sont plutôt contents parce que... Alors, moi, ce que j'ignorais, enfin, que j'avais sous-estimé, c'est le fait que le Louvre, en tant qu'éditeur, produit beaucoup de livres, des très beaux livres, souvent des très gros, c'est des monographies, c'est à l'occasion d'une exposition, enfin bon, ils ont un gros, gros travail éditorial. Et la collection de bandes dessinées qu'ils publient avec Futuro, comment on veut dire ça, ça fait partie de leur best-seller, parce que la bande dessinée est plus facile et plus habituelle dans les canaux de diffusion un peu larges que des groupes pavés sur le Titien qui coûtent 300 ou 400 euros. Ouais. Donc, pour eux, c'est une façon aussi d'amener au Louvre, enfin, en tout cas de faire circuler l'image du Louvre sur un média dont ils n'ont pas l'habitude. Donc, pour l'instant, même malgré on a eu une petite crainte, puisque le directeur du Louvre a changé en fin d'année dernière. Donc, on ne savait pas si M. Loirette, le précédent, avait donné son feu vert à cette collection. On ne savait pas si son suivant, M. Martinez, allait faire la même chose, mais visiblement, il n'a pas l'air de remettre en cause le projet, donc ça semble continuer. Enfin, ça, je vous dis ça, je suis pas éditeur du truc, mais voilà, c'est ce que j'ai entendu dire.
Ce matin, avant que tu arrives, il y a eu différentes interventions, et une des interventions a eu lieu, où on a parlé du rural dans la bande dessinée, et de l'absence des femmes dans la bande dessinée sur le rural. C'est vrai chez toi d'ailleurs aussi, globalement, il n'y a pas beaucoup. Lui, famille, c'est autre chose, mais ça ne parle pas spécialement du rural. Les ignorants, le rural, etc., sont des BD masculines. Est-ce que c'est parce que tu représentes un monde qui est masculin, où les femmes n'existent pas? Est-ce que c'est parce que tes rencontres sont masculines pour des raisons diverses et variées? Est-ce que la bande dessinée est aussi un milieu masculin? Là, pour le coup, sociologiquement, la bande dessinée est un milieu masculin. Ça fait pas de doute. Je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes dans les campagnes. Pourquoi? Est-ce que c'est la partie pris volontaire ou est-ce que ça s'est fait de manière naturelle?
Ouais, sur rural notamment, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. On m'a même accusé d'avoir caché le rôle des femmes des agriculteurs qui bossent et qui sont pas payées et tout. Sauf que c'est pas du tout le cas. Que ce soit les compagnes ou les femmes des trois agriculteurs de rural ou celles de mon camarade vigneron, elles ont un autre métier qui n'est pas du tout dans le champ de mon livre, c'est le je ne parle pas de sa famille, enfin de leur famille, c'est pas, je ne vais pas rentrer dans leur vie privée, donc la frontière de mon livre, c'est purement leur activité professionnelle. Donc évidemment, je ne parle pas de leur compagne, de leurs enfants, de leurs parents, ou je ne sais quoi, je n'ai pas de... Enfin, je ne suis pas dans le magazine People, je veux dire. Voilà, mon livre, il a des frontières très précises auxquelles je me tiens. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais c'est dégueulasse, vous ne parlez pas de leur famille et de leur femme qui supportent tout ça. » Alors que j'aurais peut-être dû dire que leur femme, la femme de ces hommes-là, ont une autre vie professionnelle qui va bien, etc. Mais que ce n'est pas mon sujet, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'idée souterraine et qui n'est pas fausse. Longtemps, les femmes d'agriculteurs ont bossé sur les exploitations sans cotiser à rien, et donc elles se retrouvent souvent dans des situations très compliquées l'âge venant. Mais c'est pas du tout le cas de ces gens-là. C'est pas le cas, entre autres, parce que c'est pas le même contexte socio-économique et qu'elles ont toutes des boulots qui n'ont rien à voir avec tout ça. Ceci dit, voilà, le monde de la vigne, comme le monde de la bande dessinée, c'est un des points communs d'ailleurs, sont des mondes extrêmement masculins, même si ça change. Ça évolue doucement, les deux. Et donc, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans Les Ignorants, je suis bien d'accord.
Ouais. Même dans Le Juif Avenu, le film, qui est un film de femme, sur une femme, prend le point de vue Karine Viard.
Ouais.
Ta bande dessinée est médiatisée par des narrateurs extérieurs qui sont des hommes, pour la plupart. Bon, il y a sa fille, pour aussi des hommes. C'est quoi, c'est que tu te sens pas...
Il y a quand même Lulu qui raconte,
on a une focalisation externe. Tu te sens, pourquoi passer par ce biais pour parler de Lulu? Tu te sens pas ces femmes pour donner le point de vue d'une femme, ou c'est...
Non, c'est très simple. Quand je raconte l'histoire de Lulu, femme nue, je raconte l'histoire d'une femme qui quitte sa famille, son mari, ses amis, et qui s'offre quelques jours de liberté sur la côte sans trop savoir quoi en faire. Ce n'est pas une décision qu'elle prend, elle constate qu'elle est en train de le faire. Donc elle est dans une situation psychologique un peu instable et mouvante. Je ne veux pas faire de psychologie, je n'aime pas ça, la psychologie dans les livres, je n'aime pas les récits psychologisants, comme on dit. Donc mon idée à moi, c'était que si je ne m'installais pas dans le crâne, dans la tête, dans les pensées de Lulu, il y aurait la place pour le lecteur et pour la lectrice, parce qu'on parle des femmes dans la bande dessinée, il y aurait la place, toute la place pour qu'elle s'y installe, le lecteur ou la lectrice s'y installe. Donc mon idée, c'était de faire un pas de recul et de raconter l'histoire d'un gars qui raconte l'histoire de Lulu. Donc il y a dans le livre, Xavier, que vous voyez là, qui est le narrateur. Autour de la table, il y a les lecteurs aussi. Donc c'est un dispositif narratif qui permet de garder une distance avec Lulu et de laisser à la lectrice et au lecteur tout l'espace mental de l'état psychologique de Lulu. Et c'est vachement intéressant de voir que Solveig Hanspach, quand elle fait le film, elle se débarrasse de ce filtre, évidemment. Puisque ce film, produit par une femme, scénarisé par une femme et un homme, mais en tout cas filmé par une femme, elle ressent pas ce besoin-là. Elle veut être au contraire au plus près des états d'esprit de Lulu. Et c'est la principale différence entre le film et mon livre, je pense. Et c'est sans doute dû à ça. Au fait qu'effectivement, moi, je préfère garder mes distances et laisser la lectrice ou le lecteur s'installer dans les états d'âme de mon personnage et pas à Solveig.
Est-ce que c'est pas dû au changement de média aussi?
Oui, c'est ce que je pense.
Parce que se débarrasser du narrateur dans le cinéma, on n'a peut-être pas eu la même fonction que...
Probablement, oui. Solveig m'a dit, ton histoire telle quelle, avec les gens autour de la table, ça va être trop long pour un film d'une heure et demie. Moi, moi, j'ai pas de problème de durée avec un livre de bande dessinée. Que vous mettiez une heure et demie ou trois heures à lire le livre, c'est pas mon problème. Chaque lecteur a son rythme. Donc c'est pas une question que je me pose du tout. Et elle voulait vraiment un récit plus linéaire. Moi, j'étais très... Pour tout vous dire, je suis assez fier de la petite technique la petite mécanique narrative de ce livre, qui est un flashback sans en être un, puis qui se termine sur une boucle. Enfin, j'ai passé pas mal de temps à monter ma petite horlogerie. Mais très bien, elle a voulu en faire autre chose. Moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était de voir comment ces deux objets narrativement différents, qui racontent globalement la même histoire, allaient cohabiter. Donc, je l'ai même incité à transformer, enfin, en tout cas, à ne pas être fidèle à ma mécanique, à moi. D'autant plus que, effectivement, le changement de média l'imposait presque, je crois. Mais moi, je ne suis pas aussi précis sur l'écriture cinématographique, parce que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon domaine, que sur l'écriture de bande dessinée. Mais ça a été évident d'emblée. Dès que j'ai rencontré Solveig et son scénariste, ça a été la première chose qui a été mise à plat, c'est on n'utilisera pas ça. Et c'est sans doute dû à ça, vous avez raison. Ouais, ouais.
Dans la chute de vélo, mais aussi un côté un petit peu boucle de l'explication qu'on a à la fin, puis c'est aussi un côté famille, puis qui est assez mixte.
Oui. Non, mais contrairement à ce qui est avancé, j'ai dessiné quand même pas mal de femmes dans différents milieux. Lulu, femme nue, c'est quand même l'histoire d'une femme. Il y a l'histoire d'une adolescente. Enfin, C'est l'histoire de plusieurs femmes qui sont une étape différente de la vie d'une seule femme. Il y a la fille qui a 16 ans, il y a la serveuse qui a 20 et quelques années, il y a Lulu qui a la quarantaine, et puis il y a la vieille dame qui a 80. Donc, ces différentes étapes de la vie d'une femme montées ensemble, en quelque sorte. Et puis, il y a d'autres livres. Évidemment, j'ai fait beaucoup de livres qui sont beaucoup moins visibles que ceux-là. Un livre comme Anticyclone, par exemple, c'est un livre qui repose presque intégralement sur un personnage féminin, d'une jeune femme. Non, ouais. C'est un livre qui a eu un destin commercial très très modeste. Et qui raconte l'histoire d'une femme seule, qui élève son gamin seul et qui ne peut pas envisager de perdre son boulot. Voilà. Et elle a un boulot elle nettoie des sanitaires dans une entreprise et elle a un peu tête brûlée. Elle est sur le point de se faire virer et elle ne peut pas. C'est juste qu'elle n'a pas le droit de se faire virer. Elle ne se sent pas apte à être virée, tout simplement parce qu'elle a quelqu'un élevé, donc elle va faire en sorte de ne pas l'être, y compris en franchissant les limites de la légalité, des choses comme ça. Et donc c'est quelque chose que j'ai. C'est un sujet que je traite de temps en temps.
D'ailleurs, qui est dans une série de trois, Anticyclone, ça peut valoir le coup d'en parler un petit peu. Mmh. Série de trois qui est plutôt autour de. Des problèmes qu'on peut tous avoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'être plus à redécouvrir le rural, à découvrir autre chose. Mais peut-être parler des deux autres en fait qui entourent Anticyclone, c'est le deuxième.
Oui, alors il y a. Ce sont trois récits que j'ai regroupés sous un espèce de sous-titre qui s'appelle Un monde si tranquille. Donc ce sont trois livres que vous connaissez sans doute pas. Qui sont disponibles, mais voilà, je ne sais pas pourquoi il y a des livres qui trouvent leur public, puis il y en a d'autres qui ne les trouvent pas. Moi, pendant 15 ans, j'ai fait des livres qui ne trouvaient pas leur public, puis tout d'un coup, ils se sont mis à les trouver. Je trouve ça très bien, mais je vois bien la différence entre les deux, et je ne vous cache pas, c'est vachement plus facile. Et donc, il y a Anticyclone qui raconte cette histoire-là, il y a aussi un autre livre qui s'appelle Ceux qui t'aiment, qui raconte l'histoire d'un gars qui est viré d'une entreprise qui, par ailleurs, sponsorise un club de football. Donc lui, il va kidnapper un joueur de football en disant, toi, tu tapes dans des ballons, tu vaux des millions. Moi, je fabrique des pizzas pour la même boîte, je vaux rien. Je vais essayer de te vendre. Voilà. Donc c'est une espèce de comédie un peu acide là-dessus. Et puis un autre récit, qui est une fable un peu sarcastique, qui s'appelle La gloire d'Albert, qui a comme contexte un spectacle son et lumière dans l'ouest de la France, monté par un homme politique un peu très à droite, et qui utilise beaucoup de bénévoles pour parler des aïeux, de l'ancien temps, avant la Révolution, c'était mieux, tout ça.
Pas du tout basé sur quelque chose
rien
de réel.
Rien du tout, non, c'est une fiction. Et donc ça se passe, disons, dans... Voilà, et puis c'est l'histoire d'un mec qui est pris là-dedans et qui pète un peu les plombs. Voilà. Donc ce sont trois récits qui tournent autour du principe du kidnapping, c'est-à-dire à s'approprier le destin de quelqu'un parce que le nôtre n'a plus d'issue. Et voilà.
Une autre absente de ce matin, on a évoqué l'absence des femmes dans la BD rurale. Et on a évoqué aussi, avec Julie Le Gall, l'absence du périurbain. C'est-à-dire que tu as un centre-ville, des banlieues, etc., la ville telle qu'on la conçoit, qui est présente dans la BD, soit comme objet, soit comme décor. Idem avec le rural, les vaches, les cochons, la campagne, ça aussi c'est présent, là encore, comme objet ou comme acteur. Et ce qui est entre les deux, et ce qui aujourd'hui est le plus dynamique en France, mais le moins visible, c'est-à-dire le périurbain, est quasiment totalement absent de la bande dessinée. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà venu à l'esprit et est-ce que tu penses que ce serait susceptible de t'intéresser toi aussi dans tes travaux futurs ?
Oui, c'est possible. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je me dis pas, tiens, cette zone géographique est vierge, je vais aller y planter mon livre. Enfin, tu vois, c'est pas. Mais ça fait partie des. Enfin, j'aime bien aller chercher.
Non visible, ce que tu disais.
Voilà, c'est un peu ça. Enfin, il y a toute une iconographie, on en parlait tout à l'heure, du village. Enfin, les publicités pour le fromage ou les téléfilms de France 2 sont toujours les mêmes villages, nickel, avec des beaux pavés. Il n'y a jamais de lotissement, il n'y a jamais de carcasse de bagnole, il n'y a jamais toutes ces choses qui sont là dans la réalité. Et le périurbain relève un peu de ça, effectivement. Il a cette espèce d'invisibilité. Il n'a pas été mythifié par le récit. À l'exception du roman d'Olivier Adam qui s'appelle justement Les Lisières. Pas un livre qui m'a emballé, mais qui a le mérite de parler de ça, vraiment, et d'en parler bien, puisque c'est. Il parle des gens qui sont en train de s'emmerder dans des lotissements, dans des lotissements uniformes, etc. Et c'est assez intéressant. En bande dessinée, de mémoire, non, effectivement, c'est un sujet qui n'a pas été.
Saison 1 de Soir de nuit, je ne sais pas si tu l'as lu,
ouais.
Tu sais ou pas, il
Ouais, il évoque un peu. Moi, il m'arrive de dessiner un peu des lotissements. La maison dont Lulu part, dont Lulu Femme Nue, c'est typiquement. Alors, sauf que c'est dans un petit village. C'est le lotissement. C'est le lotissement tel qu'on en trouve partout dans toutes les lisières des villes et des villages français, avec 200 mètres carrés de pelouse et le pavillon beige avec le portail et la voiture devant. Enfin, toute cette chose qu'on voit partout. Ouais, voilà. Et donc, c'est ça. Dans le constat aussi, j'ai dessiné un peu ces zones-là, mais c'est pas le sujet du livre. C'est pas le sujet du livre. Il faut dire aussi que le dessin, ça passe aussi par le plaisir du dessin. Et rien n'est moins agréable à dessiner que ces endroits-là. Tu vois, autant la ville, il y a un défi technique. Le Louvre, toi, c'est un vrai, il y a un enjeu. Toi, dessiner une façade du Louvre, c'est graphiquement, il y a un truc à faire. Dessiner la campagne, dessiner la montagne, c'est des trucs où le plaisir du dessin est immédiat. Dessiner, c'est comme dessiner des voitures modernes. Je dois en dessiner parce que je dessine des rues. Je dessine une Clio. Voilà, je comprends que dessiner une traction, c'est plus agréable. Dessiner une Juve A4, c'est plus marrant. Il y a plus de forme, ça parle plus à la main. Mais voilà, le lotissement, c'est un peu la Clio de la ville française. Quoi. C'est le truc standard qui est le même partout. Mais il faudrait le dessiner, je suis assez d'accord. Il faut, en tout cas, cet endroit-là où vivent la majorité de nos concitoyens mérite d'être considéré par les gens qui racontent des histoires, en bande dessinée ou ailleurs.
Ce qui est vrai, c'est que vu que, même dans, on parlait des ensembles contraires tout à l'heure, c'est le cas, c'est juste en fait, des étapes de l'histoire où les héros retrouvent leur maison. Enfin, c'est juste la maison, le lieu où ils dorment, le lieu d'où ils partent et où ils reviennent en cas de problème, mais c'est tout, il n'y a rien qui se passe dans ces quartiers-là, en fait.
C'est le fait qu'il ne se passe rien qui est intéressant.
Absolument, oui.
Effectivement.
Ouais. Allez, donne-moi 10 ans et il y aura un bouquin.
Et une autre question justement en lien avec Saison Brune. Saison Brune, c'est une BD qu'on a souvent mis en lien avec Rural, avec des BD avec tes bandes dessinées. Pourtant, je trouve ça complètement différent. D'une part, Squarzoni est engagé, et je le revendique. Lui, pour le coup, c'est un engagement militant, radical, qui n'est pas à toi. Tu parles de militant, mais sans être militant, d'une part. D'autre part, il y a une volonté didactique extrêmement importante chez lui. Saison Brune, ça se lit, intéressant, mais c'est des fois on a un peu l'impression de lire un cours de la fac. C'est très didactique. Est-ce que toi justement cet équilibre entre d'une part l'aspect engagé, d'autre part l'aspect didactique, c'est quelque chose que tu fuis ou que tu t'intéresses? Et comment tu réfléchis à ça? À quel moment tu te dis là je suis trop didactique, il faut que j'arrête? Comment tu le vois toi?
Oui, non, je vois bien de quoi tu parles, parce que les livres de Philippe Squarzoni ont effectivement cette dimension-là. En fait, on ne procède pas de la même façon. Moi, je commence par rencontrer des gens, et puis par aller discuter avec eux. Et en général, Philippe Squarzoni, il va voir des gens d'attaque, il va voir des sociologues, il va voir des gens qui ont déjà analysé une situation, et il donne, dans un dialogue, les conclusions de leurs recherches. Donc en ce sens-là, c'est vachement intéressant, parce qu'on apprend des tonnes de choses d'un point de vue général. Donc s'il nous parle de la mondialisation, on va avoir des gens qui ont étudié la mondialisation et qui sont des autorités pour en parler. Donc la parole, elle est riche, elle est structurée, elle est quasiment pédagogique. Moi, si je parle de ça, je vais aller voir des gens qui sont dans une usine, et puis qui ont pris ça dans la gueule, qui n'ont rien compris, et puis, voilà, on ne rentre pas par la même porte, c'est en quelque sorte le même sujet, mais on ne rentre pas par les mêmes accès dans tout ça. Et puis, alors il faudra lui demander à lui, je ne peux pas en parler tant qu'il n'est pas là, mais moi je fais très attention au fait que je raconte une histoire. Je parle à des gens, j'essaie de faire en sorte que les gens ne s'emmerdent pas à lire mon livre, c'est la moindre des choses. Enfin, je me dis ça, j'y arrive pas toujours. Et c'est un problème auquel je me heurte en permanence, c'est-à-dire que quand je dois retranscrire une conversation que j'ai avec quelqu'un, et que ça va faire 10 pages, c'est très compliqué de gérer sur 10 pages narrativement un truc où les gens s'en lisent pas en tant que lecteur là-dedans. Quoi. Philippe Squarzoni a décidé que c'était pas un problème, ça. Donc il taille la route, et il discute avec les gens, et il y a un champ contre champ. Et ça peut marcher, je suis pas en train de condamner ça. De Pardon, par exemple, pour prendre une comparaison au cinéma, le fait très bien. Un mec qui parle chez De Pardon, ça peut être fascinant. Il y a des scènes dans son film qui s'appelle Retour à... J'ai oublié le titre. Enfin, il filme un gars... Je ne sais pas si vous avez vu ces films qu'il a fait sur sa ferme d'enfance. Hein, il est retourné plusieurs fois. Je suis fatigué, donc j'ai un trou. Bref, ici, il filme un des gars, un taiseux, un paysan, qui n'est pas habitué à s'exprimer, encore moins devant une caméra, qui est sur son tracteur, le moteur tourne, et donc il filme en contre-plongée, et le gars a rien à dire, quoi. Il sait pas, il se tripote, il est un peu emmerdé, il se gratte, et ça dure 2 minutes, et c'est fascinant, c'est un moment de cinéma magique. Le gars dit rien, et il y a tout normalement pour qu'on s'y emmerde, mais c'est de pardon, on s'emmerde pas. Et ça, si c'est faisable, ça doit être faisable aussi dans d'autres médias. Et voilà, donc c'est des choix narratifs que tu fais, et auxquels tu te tiens, et voilà, Squarzoni en fait, moi j'en fais, d'autres en font. C'est très très différent. Mais ce sont à chaque fois des choix qui ont l'avantage d'être cohérents, je pense.
Et je rebondis du coup sur ce que tu disais et sur ce que tu disais aussi sur le rapport au vocabulaire. Par exemple, tu as souvent ce besoin de réutiliser les mots des agriculteurs, les vrais mots scientifiques, mm-hmm. en sillage. Tu définis beaucoup la biodynamie dans. Ouais. Tu parles du mélange 500, du mélange 501 avec de la bouse, voilà. Tu parles aussi de faner les parcelles et là, par exemple, de mettre le foin en andin. Mmh. Et tu dis, c'est le mettre en ligne sur le sol. Mais tu réussis pourtant à créer... est-ce que c'est par l'agencement? Est-ce que t'as beau expliquer, tu réussis quand même à faire que on s'emmerde pas, mine de rien, comme ça peut être le cas dans des BD, dans d'autres BD didactiques ou plus, disons, formellement, tu réussis à trouver une sorte d'équilibre. Et t'as quand même un besoin d'utiliser le bon terme, toujours.
Ben oui, souvent c'est un terme que j'ai appris un quart d'heure avant, tu vois. Donc je me dis que si je ne le connais pas, peut-être que les gens qui me lisent ne le connaissent pas non plus. Le terme andin, je ne sais pas si vous êtes nombreux à le connaître dans cette salle. Moi, j'avais vu évidemment des tracteurs faire des lignes comme ça de foin coupé, je ne savais pas que ça s'appelait un andin. Donc je ne lutte pas contre ce petit côté didactique, c'est-à-dire que là je suis en train de montrer des gens qui bossent dans une ferme. Je découvre, même si je vis à la campagne, je vis à 3 km de chez eux, 5 km, mais le monde de la ferme, moi je ne connaissais pas avant d'y passer tout ce temps. J'avais jamais vécu ça d'aussi près. Donc l'idée, c'est vraiment de raconter ça, mais de garder les anecdotes. C'est-à-dire que je parle de la technique, et en même temps, je parle des stupides mulots qui sortent de leur trou quand le pré est fauché et qui se font bouffer par les rapaces. Parce que c'est...
Ou des chats qui prospèrent.
Voilà, c'est ça.
Je me demandais comment on gère l'apparition d'une peinture dans une bande dessinée au niveau technique. Comment est-ce que ça se passe, si ça pose problème et comment est-ce qu'on le gère ?
Mal. Non, mais blague à part, c'est un truc auquel je me suis heurté. Dessiner le lourd, c'est dessiner des statues et des toiles. Et si un jour vous lisez Le Chien qui loue, je dirais que je me suis surtout concentré sur les statues parce que dessiner une toile, qui est déjà un objet en deux dimensions, qui est déjà dessiné en quelque sorte, c'est faire. Alors, j'ai dessiné le radeau de la Méduse par exemple sur ça. Et le radeau de la Méduse, il fait 8 mètres sur 3, genre, je sais pas, c'est un truc monstrueux. Donc non seulement c'est un travail de copiste un peu stérile, mais en plus c'est miniature et puis on passe un temps fou à faire un truc qui est vraiment. Là, c'est vraiment une contrainte pour le coup. C'est vraiment une contrainte. Il faut que le lecteur reconnaisse quand même le radeau de la Méduse. Il faut essayer d'être pas trop près, pas trop loin, trouver un truc qui simplifie mais pas trop. Enfin voilà, ça c'est pas amusant du tout parce que on est obligé de refaire un truc déjà fait. Le gars s'appelait Delacroix et c'est pas un manchot, donc. je dis une bêtise ou pas, j'ai un doute là. Non, si, c'est ça. Bref.
C'est donc, Géricault,
non ? Géricault, oui, je sentais bien que je disais une connerie. Ouais, je commence à être fatigué. Et par contre, les statues, là, pour un dessinateur, c'est un vrai jeu parce qu'on choisit son point de vue. On peut même en choisir plusieurs, on peut tourner autour. Et donc là, graphiquement, il y a un enjeu. Et c'est assez amusant, éventuellement, même de trouver d'une statue l'angle qui nous permettra de lui faire dire ce qu'on veut lui faire dire, même si ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Je me suis amusé à ça d'ailleurs, j'ai créé des dialogues entre les statues, enfin, dont on pense que ce sont des dialogues entre les statues, simplement en choisissant un angle. Et puis là, il y a du dessin. Voilà. Et c'est important qu'il y ait du dessin.
Et j'ai encore une question sur. Tu vas dire, peut-être que tu le connaissais tout, mais autant, pareil pour les agriculteurs ou pour Richard Leroy, même s'ils ont beau habiter à côté de chez toi, moi, mes voisins habitent à côté de chez moi et c'est pas pour autant que je me dis, waouh! J'ai envie de faire une histoire sur eux. Non mais tu te baladais et t'as croisé ce type un peu hirsute et tu t'es dit ou tu le connaissais d'avant ou ça t'est venu comme ça parce que de le rencontrer.
Pour Richard Leroy,
ouais, par exemple.
Ah non, c'est beaucoup plus long que ça. Je le connais depuis longtemps. Je j'appréciais bien sa façon de parler du monde du vin, et de son vin à lui en particulier. Je pressentais que j'avais là en quelque sorte un personnage, parce que c'est un mec haut en couleur, très cohérent, assez affûté, puis surtout qu'il a une culture encyclopédique des vins du monde. Enfin, il a commencé, avant d'être vigneron, par animer des clubs de dégustation, donc il sait de quoi il parle, et surtout il sait ce qu'il ne veut pas faire. Et donc c'était très intéressant, mais je ne me voyais pas partir un an à bosser avec lui dans ses vignes pour faire ce que j'avais fait avec Rural, parce que là, un des soucis qui va croissant au fur et à mesure où on vieillit quand on fait des livres, c'est la crainte de se répéter. Donc ce que j'avais fait avec les gens de Rural, je ne me voyais pas le faire avec un vigneron, donc ça faisait plusieurs années que je me disais, voilà, il faudrait que je trouve quelque chose avec ce garçon, qui me semble un bon casting en quelque sorte. Et donc je le laissais parler, je l'écoutais d'une oreille comme ça, semi-distraite. Et puis un jour, il est venu dans mon atelier, alors je dessinais, il est venu faire je sais pas quoi, chercher un truc, enfin bref. C'est une scène que j'ai mise dans le livre, parce qu'elle est fondatrice. Il me regarde dessiner, je suis en train de faire les couleurs de Lulu Femme Nue, et il me demande, mais comment ça se passe les couleurs? C'est l'éditeur qui te dit quelle couleur il faut mettre? Et je lui dis, mais putain, mais tu connais rien, enfin n'importe quoi, non, évidemment, c'est pas l'éditeur. Et lui, il me dit, non, j'y connais rien, j'ai jamais lu de bande dessinée. Et là, poum, voilà, j'ai ma porte d'entrée. C'est-à-dire que... Ok, bah moi je vais aller bosser avec toi un an et demi dans ta vigne, je vais tout faire, les étapes, la taille, tout ça, tout. Je vais goûter les vins, je veux que tu m'expliques, on ouvre plein de bouteilles. Et en contrepartie, mon gars, par contre, tu vas lire des bandes dessinées, et puis quand un livre te plaira, on ira voir l'auteur, on va aller voir mon éditeur, tu vas venir avec moi à l'imprimerie. Et l'idée de cette initiation croisée, elle s'est installée là, et le livre a démarré là. Donc tu vois, c'est très long, il y a une période de gestation. Lui et moi, on est voisins depuis, au moment où on commence le livre, depuis presque 15 ans. Alors moi, on se connaît pas forcément depuis 15 ans, mais depuis plus de 10 ans sûrement.
Finalement, t'as de la chance d'avoir un bon contact avec les gens, parce que tu serais un mec antipathique fini, tu ferais tout voler, en fait.
Disons que je fais attention. Mon métier en dépend.
Emmanuel Guibert parle de lui en disant qu'il a compris que sa place, c'était de raconter les histoires des autres. Vous vous sentez proche de ça aussi?
Ouais, on le voit un peu dans Les Ignorants, puisqu'on est allé le voir, puisque Richard Leroy est tombé un peu à la renverse en lisant Le Photographe, donc je l'ai mis dans un train, on est allé voir Emmanuel pour en parler. Et c'est un peu... Alors évidemment, on a pas mal de points communs avec lui dans notre façon d'appréhender ce genre de récit. On n'est pas très nombreux, donc on se connaît, et il se trouve aussi qu'on s'apprécie, Emmanuel et moi. Et lui, il a cette faculté de dire « je » à la place de la personne dont il parle. C'est absolument... Moi, c'est un truc qui me fascine. Dans Le Photographe ou dans La Guerre d'Alan, l'auteur et le personnage se confondent de façon extrêmement fluide et naturelle, ça pose aucun problème. Et c'est évidemment un truc que je suis absolument incapable de faire. Moi, je dis « je » en tant qu'Étienne Davodot, et je prends avec moi le personnage et je le mets dans le champ, que ce soit un vigneron ou des ouvriers. Ou... Ben lui, non, il se glisse dans la peau du personnage, et ça passe vachement bien. Et évidemment, je ne chercherai jamais à faire ça, parce que ce n'est pas ma façon. Mais il a cette faculté-là. Et en plus, il a un dessin que j'aime beaucoup. Donc, la plupart des livres d'Emmanuel sont indispensables, en gros. Bon, pour faire les choses simplement. Si vous ne devez lire qu'une bande dessinée dans votre vie, lisez La Guerre d'Alan ou Le Photographe. Et ce sont les livres que moi je mets dans les mains des gens qui me disent « Ah, la BD, ça me fait chier, j'en lis pas. » Et pour l'instant, je suis pas loin des 100% de taux de satisfaction.
C'est pas comme Trondheim où...
Non, j'ai plus de mal, oui.
J'ai pas l'intérêt de se représenter avec un mec. Mais du coup, c'est assez intéressant ce moment où, dans Les Ignorants, on tourne, demande-lui toi-même, on tourne la page, et là, il y a une planche de Trondheim qui explique lui-même pourquoi il se représente avec un mec. Ça montre bien aussi le réseau d'auteurs comme le réseau de vignerons, mine de rien. Il y a aussi beaucoup d'analogies entre les deux. Que vous alliez voir les frères corses qui font leur pinard ou leur vin, et toi qui l'emmène voir Gibra ou. Il y a vraiment beaucoup. Et du coup, ça t'est venu au fur et à mesure, cette idée d'analogie entre...
Non, c'était le pari au départ. C'est-à-dire qu'à mon éditeur, j'ai proposé le principe du livre en lui disant, voilà, je suppose que je peux faire un parallèle entre le monde du vin et le monde de la bande dessinée. La seule façon de le vérifier, c'est de faire le livre. Si tu veux que je fasse le livre, tu me fais un contrat.
Bon.
Voilà. Et il a dit oui. Parce qu'en général, il faut un scénario, il faut tout ça. Là, j'avais pas de scénario, pas de note d'intention à lui donner. Je lui ai dit, c'est une expérience que je vais tenter. Si tu veux l'avoir, il faut que tu payes. Voilà.
C'est au niveau du bateau.
Comment ?
C'est au niveau du bateau.
Oui, c'est pour ça que les contrats... Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Et je vous cache pas que les deux premiers mois, j'en venais pas large, parce que la sauce ne prenait pas. Hein ? J'allais bosser dans les vignes, on discutait, tout ça, mais je ramenais pas grand-chose à raconter. J'étais en train de me dire, bon, c'était une mauvaise idée, s'il faut l'arrêter, il faut l'arrêter maintenant. Et le jour où Richard Leroy a lu je crois que c'est Le Sursis de Gibra. Il m'a dit, c'est vachement bien ça. J'ai mis Richard Leroy dans ma bagnole, on est parti en région parisienne voir Gibra. Et j'ai mis en présence ces deux mecs qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient aucun point de contact. Un quart d'heure après, ils étaient copains, ils discutaient de leur métier. Et là, le bouquin c'est tout de suite cristallisé. Je me suis dit, ça y est, il est là. Et ça ne s'est pas démenti pendant un an et demi, un an après, plus d'un an.
Parce que juste tant qu'il n'avait pas lu Le Sursis de Gibra, il était hermétique à tout ce que tu lui faisais lire.
Tout ce que je lui faisais lire, il faisait un peu l'amour de je me suis endormi.
Le photographe, la gardienne.
Pas encore, j'attendais. J'ai gardé mes munitions sûres pour le moment où ce serait vraiment désespéré. Et je sais plus les proches, parce que ça fait longtemps maintenant, je me rappelle plus les premiers que j'ai fait lire, mais en tout cas dans le livre figurent les plus marquants.
Le pire c'est Moebius, je crois.
C'est un échec cuisant, ça il s'en fout. Mais bon voilà, c'était ça le jeu, c'était de ne pas non plus masquer les trucs qui marchent pas. Mais on a dû négocier. Le jour où je l'ai emmené voir l'expo Moebius à Paris, clairement ça l'a emmerdé, il était pas dedans. Donc il m'a dit c'est de la merde. Bon, j'ai dit c'est Moebius quand même, il m'a dit oui mais j'aime pas. Bon, je dis ok, dans le livre je mets Richard Leroy dit Moebius c'est pas bon. Et le fait de dire Moebius c'est pas bon et le fait de le voir écrit dans un livre qui va être lu par des milliers de gens, c'est pas la même chose. Donc il m'a dit non, enlève ça, tu peux pas me laisser dire ça. Je dis mais tu l'as dit. Il dit oui, mais bon, je vais passer pour un con, je sais bien que pour vous Moebius c'est une espèce de dieu vivant. Il était encore vivant à l'époque. Oui. Je suppose même que Richard Leroy l'a tué en fait. Bref, je lui ai dit, non, justement, c'est intéressant. Le livre s'appelle Les Ignorances. C'est notre état d'ignorant qui nous rend libre de donner notre avis. Si t'aimes pas Moebius, c'est que tu trouves ça pas bon, tu peux le dire, t'as le droit, c'est pas un crime. Et il n'a accepté de le laisser cette page dans le livre que dans la mesure où moi, quelques semaines avant ou après, je sais plus, il m'a fait goûter un vin qui coûtait genre 2000 balles la bouteille. J'ai dit, c'est pas bon. Et il m'a dit, fous-le dans l'évier, en déconnant. J'ai mis dans l'évier, il m'a dit,